Si on produit pour avoir une meilleure vie, on ne va pas produire de manière à nous autodétruire.
Ils veulent être plus forts que la planète, donc ça va pas bien.
Notre maison brûle.
How dare you?
Les chroniques du hérisson.
Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème.
Une émission proposée par la Frapna.
Bonjour à toutes et tous, vous écoutez les Chroniques du Hérisson, une émission pleine de piquants proposée par la FRAPNA, la Fédération des associations de protection de la nature de l'Ardèche. Dans ces chroniques, nous traitons de l'écologie sous toutes ses formes, la culture, la philosophie, l'art, les sciences et les initiatives locales. La nature est partout et vous invite à ce rendez-vous frapnesque sur Fréquence 7. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité en Ardèche qui a beaucoup circulé dans les médias locaux, notamment sur Fréquence 7. Je parle du projet de basilique de Saint-Pierre-de-Colombier. Pour ceux qui n'auraient pas suivi les dernières nouvelles, il n'est pas trop tard, puisque nous accueillons dans cet épisode Dimitri, membre des Amis de la Bourge. Avant de lui passer le micro, quelques mots de contexte. Dans la vallée de la Bourge, le chantier de la basilique de Saint-Pierre-de-Colombier était suspendu depuis l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2020. Mais récemment, le préfet de l'Ardèche a levé l'arrêté, indiquant que selon une étude environnementale, il n'y aurait aucune atteinte significative à l'environnement et aux espèces protégées. Ce projet, dans un village de 400 habitants au cœur du parc des Monts d'Ardèche, comprend plusieurs constructions, notamment une basilique d'une capacité d'accueil de plus de 3500 personnes, des bâtiments d'hébergement, un grand parvis, un parking pour les bus et une passerelle d'accès au-dessus de la Bourge, le tout pour un budget de 17 millions d'euros. Pour en parler, nous allons donner la parole à Dimitri des Amis de la Bourge, un collectif qui depuis 4 ans mène une bataille contre ce projet. Une première chose que vous dénoncez tout d'abord, c'est l'opacité de la procédure, puisque vous expliquez qu'il n'y a eu quasiment aucune consultation et information auprès des habitants. Le parc régional également déclare avoir été tenu à l'écart. Alors expliquez-nous comment ça s'est passé pour vous, quand est-ce que vous avez pris connaissance du projet ?
Bonjour Lorraine, donc pour nous, donc, la plupart des habitants de Saint-Pierre-de-Colombier et de la vallée, alentour de la vallée de la Bourge, ont pris connaissance de ce projet en fait quand les travaux ont commencé. Voilà. Parce que la seule annonce publique qui avait été faite, en fait, c'était tout simplement l'affichage légal. En mairie, il y a un petit panneau en bord de route, comme quoi il y avait un permis de construire qui était accordé. Or, la mobilisation a mis un peu de temps à se construire et ça s'est surtout mis en place une fois que les travaux avaient commencé, donc au-delà du délai de recours légal pour attaquer le permis de construire. Donc ça, c'est un petit peu la première opacité qu'on a eue, c'est qu'il n'y a pas eu de concertation, de consultation du public pour un projet d'envergure sur une petite commune en amont en fait de ce projet. Donc on s'est posé la question, est-ce que normalement il n'y a pas une enquête publique pour des projets d'une telle envergure ou une étude d'impact ou quelque chose ? Alors en fait, il faut savoir que normalement si, mais il y a des dérogations possibles en remplissant un formulaire, ce qu'on appelle d'étude au cas par cas auprès de l'ADREAL. Et donc dans cette étude au cas par cas, il y a plusieurs questions qui sont posées aux pétitionnaires, et notamment est-ce que le projet se situe dans un parc naturel régional ? Et là, la famille missionnaire Notre-Dame a répondu non. Voilà. Est-ce qu'il y a la présence d'espèces protégées sur le site ou est-ce que le projet menace des espèces protégées ? Ils ont répondu non. Donc ça fait deux erreurs, enfin, ce qu'ils considèrent comme des erreurs hein, depuis, qui ont été présentées dans ce dossier et la dérogation a été accordée. Alors est-ce que sans ces erreurs, la dérogation était aussi accordée ? Ça, on ne peut pas le savoir. Mais est-ce que les services de l'État n'auraient pas pu quand même fouiller un peu plus ? C'est encore une autre question. Donc il y a de l'opacité, des erreurs ou pire d'un côté ou de l'autre. Pour l'instant, en 2018, c'est ce qui s'est passé. Et donc ils ont pu obtenir un permis de construire assez facilement, sans avoir besoin de passer par une procédure d'étude d'impact et d'enquête publique. Voilà, ce qui allait bien à tout le monde parce que du coup, le projet était plus discret. Ça limitait les oppositions.
Donc effectivement, au-delà de l'opacité de la procédure que vous dénoncez, vous découvrez des défaillances non négligeables dans la prise en compte de l'aspect environnemental. Tu parles de la dérogation qui a été accordée par les services de l'État pour dispenser de la réalisation d'une étude d'impact environnemental, alors même que le dossier comportait des erreurs sur cet aspect. Est-ce que vous avez constaté d'autres manquements concernant la prise en compte de l'environnement, de la préservation de la rivière et des espèces protégées ?
Alors, oui. Pour nous, c'est très clair en tout cas. Il y a eu donc plusieurs manquements en fait dans la procédure en fait, puisque normalement quand il y a eu présence d'espèces protégées, et ça la famille missionnaire Notre-Dame ne peut pas nier qu'il y a eu la présence d'espèces protégées, parce qu'ils ont tout de même fait une petite note environnementale par un bureau d'études qui concluait effectivement à la présence de certaines espèces protégées et même à la présence potentielle d'autres espèces protégées. On va en citer quelques-unes, hein. Il y a par exemple la loutre d'Eurasie, le castor d'Europe, le sauneur à ventre jaune qui bénéficie même d'un plan national d'action de préservation, parce que c'est une espèce extrêmement menacée. On a le cincle plongeur, le martin pêcheur, 3-4 espèces de couleuvres qui sont toutes protégées. Voilà, donc ça c'est ce qu'avait révélé cette étude, et donc cette étude disait bien qu'elle était en elle-même incomplète et méritait des approfondissements, et qu'elle ne pouvait pas conclure à un impact positif ou négatif du projet sur la faune et la flore locale. Donc ils avaient quand même cette base-là. Mais normalement, quand on sait qu'il y a des espèces protégées, soit on fait une étude qui prouve qu'il n'y a pas d'impact, soit on demande une dérogation. Voilà. Et cette dérogation n'a jamais été faite auprès de la DDT. Et c'est sur ça d'ailleurs que s'est basé l'arrêté de suspension des travaux en 2020. Voilà. C'est ce qu'on a réussi à pointer auprès de la préfecture, qui du coup a pris... avec le parc naturel régional, qui a pris du coup cet arrêté pour suspendre les travaux donc le 15 octobre 2020. Après, il y a d'autres manquements, hein, très clairement, puisque il y a tout l'aspect aussi sur la loi sur l'eau, puisqu'a priori les piles du pont sont quand même dans le lit mineur de la rivière, alors qu'il y a lors de la demande de permis de construire, il y avait aussi eu une démarche annexe sur les déclarations loi sur l'eau, et la DDT demandait très clairement à ce que les piles ne soient pas dans le lit mineur de la rivière. A priori, c'est aussi une erreur d'écriture. Dernière chose, enfin normalement, la DDT demandait à ce qu'il y ait une pêche électrique de sauvetage pour en fait enlever toute la population piscicole le temps des travaux et réintroduire donc les poissons un petit peu plus loin. Or, a priori, il n'y a eu aucune pêche et, de sauvetage effectuée quand les machines avaient les chenilles dans la rivière et modifié le lit de la rivière, quoi. Voilà. Donc ça fait quand même pas mal de petites choses qui sont assez flagrantes, quoi, en termes d'atteinte à l'environnement, quoi.
Oui, ça commence à faire quelques erreurs. Donc, au final, pour reprendre, il y a deux histoires de dérogation. La première dont tu nous as parlé, c'est la dérogation qui a été accordée et qui dispense de réaliser une étude d'impact environnemental. Mais ça ne dispensait pas pour autant la FMND de faire une demande de dérogation pour destruction d'espèces protégées. Cette demande n'a pas été faite et c'est grâce à ça que vous avez réussi à faire suspendre les travaux le temps qu'une étude environnementale soit réalisée. Quand l'arrêté est instauré le 15 octobre 2020, vous demandez bien entendu d'être tenu informé de l'avancement de cette étude, mais ce n'est pas comme ça que ça va se passer, car 2 ans après la suspension des travaux, vous apprenez que l'arrêté de suspension est levé, puisque l'étude environnementale, qui n'est pas encore accessible, pas même pour le PNR, conclut par l'absence de tout impact résiduel négatif et significatif sur les espèces protégées présentes sur le site. Alors revenons sur ces 2 ans jusqu'à aujourd'hui. Comment ça s'est déroulé pour vous ?
Alors depuis 2 ans, nous donc on n'avait pas été admis donc au groupe de travail qui a ensuite conduit à l'arrêté. Il y avait simplement le parc naturel régional. Il y avait notamment le parc naturel régional, conseil départemental, des conseils régionaux, des élus locaux, la FMND et les services de l'État. Voilà. Mais pas nous, associations d'opposants. Bon, nos arguments ont quand même été entendus, parce qu'on a quand même envoyé des lettres à ce groupe de travail. Des arguments qui ont été repris notamment par le PNR, donc ça a conduit à cette suspension en 2020. Et la préfète donc, de l'époque s'était engagée à donc, tenir au courant tous les membres du groupe de travail, de chaque avancée du dossier, et à ce qu'ensuite l'étude soit quand même analysée par tout le monde. Quoi. Bon, cette étude a été fournie a priori en septembre 2021 au service de la préfecture. Donc vous voyez que ça a déjà pris plus d'un an pour valider cette étude, donc ça veut dire qu'il y a eu des allers-retours aussi, des compléments qui ont été demandés par la préfecture, et qu'au bout du compte, donc le préfet a accepté d'abroger l'arrêté de suspension des travaux, donc de réautoriser les travaux, mais nous, ça, on n'a jamais eu vent, le PNR non plus, effectivement, et on a tous appris par la presse le 15 décembre, alors que l'arrêté est 15 décembre 2022, effectivement, alors que l'arrêté est paru le 29 novembre 2022, donc à peu près 15 jours après sa apparition de l'arrêté. Et pendant 2 ans, du coup, on n'a eu aucune nouvelle de la préfecture. On a demandé plusieurs rendez-vous avec le préfet, le nouveau préfet. Toujours des réponses négatives, voire pas de réponse. Et pareil, on a demandé par intermédiaire de notre avocat d'avoir donc les nouveaux éléments de cette étude à plusieurs reprises, ce qui n'a jamais été fourni. Donc on est le 12 janvier 2023 aujourd'hui, et on n'est toujours pas en mesure de lire cette étude environnementale qui conclut, comme tu l'as rappelé, à l'absence d'effets négatifs sur la biodiversité. Moi, la question que je me pose, en connaissant un petit peu quand même les milieux naturels et tout ça, c'est comment un projet d'artificialisation des sols ne peut avoir qu'un impact négligeable, voire un impact positif, parce que c'est ce qui est cité dans la conclusion de l'étude, qui est le seul truc que l'on a, comment l'artificialisation des sols peut avoir un impact négligeable ou positif sur les espèces présentes. Voilà. Sachant que là, il y a carrément en fait une rupture de la continuité écologique entre la rivière et la forêt qui est derrière, avec la prairie qui faisait transition, la ripisylve, donc les espèces sont forcément impactées à un moment ou à un autre. Donc on ne peut pas conclure, enfin à mon sens, à l'absence d'impact sur la biodiversité ou sur les espèces protégées. Donc j'aimerais bien lire cette étude. Je pense qu'on est assez nombreux sur le département et même bien au-delà à vouloir lire cette étude pour voir comment un projet d'une telle ampleur ne peut pas avoir d'impact sur les espèces présentes.
Oui, effectivement, on aimerait tous la lire. La rigueur et le talent argumentaire dont elle semble faire preuve doit être absolument fascinant. Une chose dont on n'a pas encore parlé, c'est évidemment toutes les autres nuisances et toutes les autres problématiques engendrées par un projet de cette envergure. Vous les avez bien sûr listées. Si je les reprends, il y a l'impact paysager. La vallée de la Bourges est une vallée préservée. Vu la hauteur du bâtiment, on peut se poser la question de la pollution visuelle et de la désharmonie avec le patrimoine bâti cévenol du village. L'artificialisation irréversible de terres agricoles fertiles. Les retombées économiques non évaluées selon le PNR, puisque aucune action d'accompagnement ne semble actuellement prévue pour faire en sorte que ce projet soit générateur d'un développement économique durable pour la commune de Saint-Pierre-de-Colombier et la vallée de la Bourges. Plus l'opacité des financements, puisque la famille missionnaire de Notre-Dame ne fournit pas vraiment de réponse sur ses capacités de financement. On ne sait pas si à ce jour elle a la somme nécessaire ou si le chantier sera à durée indéterminée, progressant au rythme des rentrées d'argent. Pour rappel, le projet s'élève à 17 millions d'euros. Les infrastructures routières qui sont impactées et sans études connues. Vous parlez aussi du trafic routier, puisqu'il faut savoir que l'acheminement se fera par car et que la capacité d'accueil, comme on l'a dit, étant d'environ 4000 personnes. Vous parlez enfin de la gestion de l'eau, de l'assainissement, notamment en période de sécheresse. Voilà, tout ça alourdit et complexifie encore plus le dossier. Une fois tout ça dit, parle-nous de la mobilisation à venir.
Oui, ben merci Lorraine de donner la parole à la mobilisation. Donc nous, effectivement, sur la suite, on continue avec l'association L'Avenir de la Vallée de la Bourges toutes les procédures juridiques et légales possibles pour faire abroger ce projet définitivement. Voilà. Et souhaitons-le même aller jusqu'à une remise en état du site. C'est notre objectif à long terme. Donc pour ça, effectivement, on a besoin de force vive, on a besoin de soutien financier aussi. Donc ça, on a une campagne sur Hello Asso, vous pouvez nous suivre aussi sur stopbasilic.org. Voilà, parce qu'on doit financer tous les frais de justice, toutes les procédures judiciaires, voilà, ça, entre autres. Donc c'est une lutte de longue haleine, mais voilà, on a bon espoir en tout cas d'arriver à faire annuler ce projet une bonne fois pour toutes.
Le mot de la fin sera en musique. On écoute le morceau « À portée de ma voix » de Baptiste Dupré qui a été écrit en soutien à votre mobilisation. Merci Dimitri et à bientôt.
Toujours c'est la même histoire, le même mécanisme s'enclenche et opère. Allez circuler, y a rien à voir et laissez-nous faire nos petites affaires. Il a pris 100 000 visages, on connaît ses manières depuis tout ce temps. Expert en l'art du camouflage, c'est toujours pareil cette fois pourtant. C'est là, à portée de ma voix, derrière le champ de ronces s'abroie la promesse des lois, voilà pourquoi je chante et je dénonce. Il évolue à petits pas voraces, de petites marches en grande procession. Des cieux viennent les rapaces, et dans le silence ils prennent possession. Des lieux, des urnes, des rivières, sur un tapis rouge le cortège avance. Dans un coin perdu, là-bas sur la terre, dans un coin perdu, quelque part en France. Là, à portée de ma voix, derrière le champ de ronces s'abroie la promesse des lois, voilà pourquoi je chante et je dénonce.